Bonjour mes bien-aimés, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce jour au travers de l'enregistrement de ce message. Je vous salue dans le nom de Jésus et que la paix et la grâce de notre Seigneur soient multipliées en vous. Nous sommes rendus aujourd'hui au 14e message, oui je crois, 14e message de l'étude du chapitre 54. Du livre du prophète Ésaïe de notre Sainte Bible, une étude qui porte sur le thème Élargis l'espace de ta tente. On va faire un petit résumé de ce qui nous a conduit jusqu'à présent. Pour cela, je vous invite à prendre votre Bible dans Ésaïe au chapitre 54. Nous allons lire la parole de Dieu. Ésaïe 54. Réjouis-toi, stérile. Toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Amen. Verset 2. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Amen. Voilà l'instruction qui a été reçue de l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente. Sous le verset 2, le Seigneur nous dit comment il fallait le faire. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Ça, c'est l'instruction majeure de cette étude. Mais l'Éternel ne s'arrête pas là. Il poursuit tout le long de ce chapitre à nous expliquer ces différentes étapes. Il nous a expliqué au verset 3, il nous a donné le détail de la promesse qu'il fait. Il nous a donné une instruction. L'instruction s'accompagne de plusieurs promesses, de plusieurs actions qu'il va mener, et il nous en donne le détail. Il nous dit au verset 3, « Car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations, et peuplera des villes désertes. » Dans les messages précédents, message 4 ou 5, 5e, nous détaillons cela vraiment dans les profondeurs et nous avons été vraiment enrichis. J'invite ceux qui prennent ce message en cours de route de trouver tous ces messages sur le site www.héritagedurayaume.com dans la rubrique audio. Et vraiment pour être grandement enrichi, béni. Amen. Ensuite, l'Éternel nous a donné l'assurance de la restauration. Il nous dit que c'est un temps différent, il nous dit que c'est un temps nouveau, un temps où il remet des choses à neuf, où il restaure son peuple, parce qu'il veut aller beaucoup plus loin avec lui. Et dans l'assurance de la restauration, nous allons le lire du verset 4 au verset 10 inclus, et vraiment c'est apaisant. Nous avons décortiqué ça aussi et nous avons vu dans quelle dimension notre Seigneur était bon, miséricordieux, compatissant. Notre Père était plein de pardon, de générosité, et qu'il jure même de ne plus tenir compte de nos écarts, de nos faiblesses, de nos iniquités, de nos péchés, et qu'il veut amorcer avec nous un nouveau départ en quelque sorte. « Ne crains pas, nous dit-il, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse, et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre, car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je te t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur l'Éternel. Il en sera pour moi comme les eaux de Noé, J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Alléluia. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Amen. Dans sept versets particulièrement, l'Éternel prend la peine, notre Dieu prend la peine de nous apaiser, de nous consoler. L'Éternel prend la peine de nous ouvrir son cœur et de nous dire véritablement là où il voulait nous amener. Quand nous avons étudié ces versets dans les messages 5 ou 6, je crois, nous avons étudié en deux temps. Nous avons voulu parler de l'assurance, de la richesse que nous avons en Abraham, de la richesse de la postérité d'Abraham. Et nous expliquons à ceux qui n'avaient pas encore compris véritablement qu'ils devaient être pleinement en confiance par rapport à leur position, par rapport à l'héritage d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et de comprendre la dimension de ce que la parole appelle la postérité d'Abraham, là où notre Seigneur Jésus est venu ouvrir la porte des brebis pour nous connecter à la postérité d'Abraham. C'était important, nous l'avons vu pleinement. Ensuite, nous l'avons apprécié toutes les promesses que l'Éternel nous donne, toutes les promesses que l'Éternel nous fait de restauration, de regard de nouveau, et il va jusqu'à jurer véritablement comme il a juré à Noé. C'est puissant, c'est profond. Et nous avons pu apprécier à ce moment-là que nous pouvons avancer avec pleine assurance avec notre Seigneur en cette saison. Moi, quand j'ai reçu cette instruction de Dieu et que j'ai reçu à moi de le partager avec des personnes qui, dans le corps du Christ, étaient dans une phase véritablement où ils étaient dans la quête de pouvoir accomplir avec Dieu. Ils étaient dans la phase où ils brûlaient d'envie, où ils nourrissaient comme ça les douleurs de l'enfantement, d'accomplir quelque chose avec Dieu. Ils étaient dans une phase où l'Éternel les préparait pour pouvoir rentrer dans un plan d'accomplissement avec Dieu. Toutes ces personnes-là ont, à mon avis, reçoivent de Dieu cette instruction d'élargir l'espace de leur tente. Et ceux qui sont dans cette quête d'élargissement, dans cette quête d'occupation, quête d'agrandissement avec Dieu, qu'ils écoutent ce message avec vraiment attention et intérêt. Parce que Dieu leur déploie là son processus, Dieu leur nous fait comprendre la façon d'accomplir avec lui, le processus de l'accomplissement avec lui. Amen. Nous avons évolué aussi dans des messages, messages 8, 9, 10, etc., tout le long pour analyser ce qu'on a appelé le mode opératoire de Dieu. Parce que Dieu va encore plus loin. Au-delà de nous assurer de sa restauration, Dieu a tenu à nous faire voir de quelle façon il allait agir. C'était des promesses formidables. Dans le verset 11 et dans le verset 12, Dieu nous dit des choses qui sont profondes et précises. Et il nous a semblé important de décortiquer chacune de ces promesses parce que nous voulons vraiment saisir la quintessence de ces promesses, saisir la lumière qu'il y a dans ces promesses, afin de pouvoir la rendre pratique dans nos vies, afin de pouvoir véritablement nous-mêmes rentrer en praticabilité de cela. Et on n'a pas été déçus de comprendre ce que Dieu voulait nous dire quand il dit « Malheureuse, battue de la tempête et que nul ne console. » Alléluia. Heureusement, nous avons un consolateur. Amen. « Voici, je garnirai tes pierres d'antimoine. » C'est une promesse. Mais si nous ne la comprenons pas, comment est-ce que nous allons en jouir? « Je te donnerai des fondements de saphir. Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucle. » Alléluia. « Et toute ton enceinte de pierres précieuses. » Nous avons appelé cette partie le mode opératoire divin. Et nous avons étudié tout au long d'un ou même parfois plusieurs messages pour décortiquer, rentrer vraiment dans la révélation de ces promesses-ci. Nous voici aujourd'hui donc rendus au verset 12, à sa partie C, je dirais, qui nous dit aujourd'hui, je ferai toute ton enceinte de pierres précieuses. Alléluia, c'est une promesse riche. Mais nous allons encore aujourd'hui nous arrêter dessus et aller à la quête, aller à la recherche de la révélation de Dieu sur cette promesse. Amen. Prions pour solliciter la conduite du Saint-Esprit, sans qui rien n'est possible. Éternel Dieu de gloire, Papa, merci. Merci de ce qu'aujourd'hui encore tu nous rassembles. Merci de ce qu'aujourd'hui encore tu permets que nous puissions être en partage, que je puisse être en partage, Seigneur, avec mes frères et mes sœurs. Que nous venions devant de ta face, ô Père éternel, afin de recevoir en nous, par la puissance de ton esprit, la révélation de ta parole au nom de Jésus. Parce que nous voulons comprendre, Seigneur Dieu Père Tout-Puissant, aujourd'hui, ce que tu nous dis quand tu nous dis que tu feras toute notre enceinte de pierres précieuses. Amen. Nous savons que c'est une promesse riche, comme nous l'avons déjà vu. Nous savons que la préciosité, les pierres précieuses pour toi, relatent ta nature, ô Père, enseigne-nous. Enseigne-nous ta nature. Fais-nous comprendre ce que tu veux nous dire. Fais-nous comprendre de quoi tu veux nous doter. Fais-nous comprendre, Seigneur, ce que tu attends de nous, afin que nous puissions, Seigneur, rentrer dans l'applicabilité de cela, parce que nous voulons faire ce qui t'est agréable. Père éternel, Saint-Esprit de Dieu, nous voici. Je me soumets entièrement à toi. Je ne suis qu'un vase, je suis que ton temple, sanctifié par le sang de mon Seigneur Jésus, afin que tu te déploies pour faire l'œuvre de Père, pour accomplir toi-même. Parle par ma bouche, instruis le peuple de Dieu au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui ne vient pas de Père se taise maintenant. Que ma chair se taise et que toi seul, Esprit de Dieu, tu parles dans le nom puissant de Jésus. Je renverse tout esprit de distraction, tout esprit de détournement, tout esprit d'endormissement, tout esprit de désordre. Oh, sur mes frères, sur mes sœurs, sur tous ceux qui écoutent ce message, sur moi-même, afin que seule ta volonté, ô Père éternel, se fasse, afin que ton atmosphère, Seigneur Dieu Père Tout-Puissant, règne dans le nom puissant de Jésus. Merci, ô Dieu de gloire, Papa. Merci, Saint-Esprit. Glorifions Jésus et que toute la gloire en revienne à l'éternel Dieu le Père. Amen. Je ferai toute ton enceinte de pierres précieuses. Quand nous lisons ce verset, deux mots particulièrement attirent notre attention. Enceinte et pierres précieuses. Donc ce sont les deux mots, ou deux groupes de mots, qui vont retenir notre attention. Nous allons travailler dessus. Ils vont nous parler. Prenons le mot enceinte. Le mot enceinte est exprimé ici dans l'Ancien Testament en hébreu, et c'est Jebul. Il est défini comme étant un espace délimité. Donc, quand on parle d'une enceinte, on parle d'un espace qui a des limites, d'un endroit précis dont on peut établir la dimension, on peut établir la surface parce qu'on en connaît les limites. L'enceinte peut être un espace, un territoire que Dieu te donne, un domaine d'action, un domaine d'activité, un domaine d'habitation, un site précis quelque part. C'est un espace qui ne se limite pas seulement sur ce qui est terreux, c'est-à-dire le sol, non. C'est un espace qui se définit comme nous l'avons vu en étudiant les créneaux de Ruby. Nous avons vu que quand Dieu parle des créneaux, il parle aussi des domaines d'activité qu'il peut donner à faire, des idées même, des pensées à développer. Tout cela sont des espaces, ce sont des créneaux. Amen. Donc nous ne devons pas être focalisés sur le mot enceinte qui est seulement, quand on parle de territoire ou de domaine, que l'on voit seulement le sol, non. C'est défini comme une étendue d'une propriété, étendue d'une demeure. Un espace peut être confiné même dans une maison. Ça peut être la cuisine, ça peut être une chambre, ça peut être un salon. Parce que tous ces espaces n'ont pas la même fonctionnalité. Mais il y a déjà là une notion de propriété. Quand on dit ton enceinte, ça veut dire que c'est dans un espace délimité, mais qui t'appartient. C'est important, la notion de propriété qui s'inscrit dans le mot enceinte. Dans les termes, quand on ne veut pas parler d'enceinte en ce terme-là, on parle de propriété, de domaine, tout simplement, de pays, ainsi de suite. Mais quand on dit que quelque chose est ton enceinte, ça veut dire qu'il y a une notion non seulement de limite, de délimitation, mais il y a une notion de propriété dessus. Amen. La délimitation d'une enceinte est un marquage qui doit être visible. Ça ne fait pas de doute, pas de confusion. C'est une délimitation qui est claire. Ça nous fait penser à des frontières entre des pays, à des bornes que l'on plante pour délimiter un espace, à une muraille que l'on bâtit. Nous savons que la ville de Jérusalem, pour la délimiter, il y avait toute une muraille bâtie. Et que lorsqu'elle a été écroulée, nous avons vu comment Néhémie a été touché par l'Éternel pour avoir en lui le désir, le fardeau de rebâtir ce mur. C'était une pierre précieuse déjà. Nous allons le voir. Ça peut être une barrière, ça peut être une balustrade, ça peut être même un fleuve, une forêt, une montagne. On délimite des choses par soit des marquages qui sont même naturels, soit des marquages qui sont faits de main d'homme. Nous savons que la plus longue muraille qui existe, c'est la muraille de Chine. Et quand on rentre pour étudier l'histoire, on se rend compte que c'est un des empereurs qui avait en lui un désir de conquête, mais conquête dans le sens que lui voulait unifier tous ces petits territoires diffus qui éclataient la Chine et qui faisaient sa faiblesse. Mais lui, il avait entrepris par la conquête de pouvoir unifier tous ces royaumes-là pour en faire un empire. Et il avait donc entrepris comme ça pour préserver son empire des territoires qui pouvaient avoir les mêmes aspirations de conquête que lui. Il a entrepris de faire bâtir la muraille pour pouvoir encercler tous ces territoires et en faire un empire. C'est le même, c'est dans ce même esprit-là aussi. Ça peut être naturel. Nous savons qu'il y a un verset dans la Bible et qui est beaucoup chanté et qui dit Jérusalem, que nous sommes dans la main du Seigneur comme Jérusalem est entourée par les montagnes. Jérusalem est entourée par les montagnes et ces montagnes forment en quelque sorte autour de Jérusalem un rempart de protection, une barrière. Alléluia. Donc quand l'Éternel parle d'enceinte, il parle de quelque chose qui est spécifique à toi et qui peut être délimité de façon claire. Dans la parole de Dieu, dans la Bible, lorsqu'on nous parle dans Genèse, ça me vient tout de suite comme ça, donc je n'ai pas cherché absolument le verset, mais comme je le dis, je crois que je m'adresse aux disciples, c'est-à-dire des personnes qui marchent avec Dieu, qui ont compris que la parole de Dieu était essentielle pour leur croissance et qui lisent la parole de Dieu. Donc, quand le Saint-Esprit m'inspire un verset, je l'évoque parce que je sais que ça va vous parler aussi. Lorsque dans la Bible, en Genèse, il est décrit qu'Adam et Ève furent chassés, etc., et que Dieu a déposé deux chérubins pour croiser les armes, pour protéger l'entrée de l'Éden. Ça veut dire que l'Éden était un endroit qui était délimité. Et la Bible, la parole de Dieu dans Genèse, nous décrit, nous donne les contours de l'Éden. C'est important. Lorsque le Père fait des territoires, lorsque le Père fait des enceintes, il y a toujours Les limites de là où s'étend. Parce que les choses ne peuvent pas aller seulement à volo comme ça. C'est important. Dans le livre de Deux Rois, 25, en son verset 10, il est dit ceci, toute l'armée des Chaldéens qui était avec le chef des gardes démolit les murailles formant l'enceinte de Jérusalem. Lorsque deux peuples sont en guerre et dans le temps, enfin, avant d'atteindre vraiment l'adversaire, il fallait déjà passer ces remparts, dont la muraille des villes était le premier rempart. C'était le premier rempart de protection. Et c'était fait de façon solidifiée. Souvenez-vous, pour Jéricho, souvenez-vous la ville de Jéricho, on disait que la muraille était tellement fortifiée qu'il n'était point possible ni de sortir ni d'entrer. C'était leur rempart. Et lorsque l'ennemi t'attaque et renverse tes murailles, renverse tes remparts, renverse tes barrières, tu es déjà atteint parce que tu n'as plus de préservation romaine. Dans Ézéchiel aussi, 42 à son verset 20, il est écrit pour la vision d'Ézéchiel sur la Jérusalem céleste. Il mesura des quatre côtés le mur formant l'enceinte de la maison. La longueur était de 500 cannes et la largeur de 500 cannes. Ce mur marquait la séparation entre le saint et le profane. Voilà encore des buts pour lesquels on construit des séparations pour délimiter l'enceinte. Il fallait construire quelque chose de saint. Dieu voulait faire sa maison. Et il a défini un espace et il a entouré cet espace d'une séparation dont le but était de séparer les saints des profanes pour qu'il n'y ait pas de mélange, qu'il n'y ait pas de souillure, qu'il n'y ait pas autre chose. Ceci dit, nous pouvons bien comprendre que ce qui est contenu dans une enceinte est précieux. Alléluia. Quand on commence à parler déjà de l'enceinte, c'est que ce que ça contient est précieux. Ce que ça contient doit être saint. Si nous voulons marcher à l'image de notre Père, c'est ce que le verset nous dit. Amen. Nous devons, tout le long de cette étude, nous devons percevoir cela de cette façon. Ça veut dire que l'Éternel nous donne, on a parlé d'une notion de propriété. Quand Dieu veut accomplir avec nous, il nous donne un territoire, il nous donne un domaine, il nous donne un espace qu'il veut délimiter et que nous devons préserver saint. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Donc c'est la notion de l'enceinte. Accomplir avec Dieu établit déjà qu'il y a une nécessité d'avoir un regard sur l'enceinte qui doit être préservée. L'enceinte qui est concernée et qui doit être préservée. Amen. Le mot enceinte revient aussi d'une autre façon. En la langue française, le mot enceinte est désigné aussi, est utilisé aussi, je veux dire, pour désigner le fait pour une femme de porter en son sein un enfant. Quand une femme porte en son sein un enfant, on dit qu'elle est enceinte. Alléluia. Amen, amen, amen. On dit qu'elle est enceinte. Accordez un regard sur cette autre façon de concevoir l'enceinte. Dans Genèse 25, verset 21, il est dit ceci, parlant d'Isaac. Nous savons que Isaac a épousé Rebecca, qui était de la même famille que Sarah. Et elle avait le même problème que Sarah aussi. Elle était stérile. Elle avait la difficulté d'enfantement. C'était un lien qui était dans la famille de Sarah. Mais Isaac, en fils, hein, il est écrit que Isaac implora l'Éternel pour sa femme. Amen, amen, amen. Car elle était stérile. Et l'Éternel l'a exaucée. Amen. Je vais ouvrir une petite parenthèse ici. Et je vais dire une chose. Isaac était le fils de la promesse. Le fils d'Abraham. L'unique de la promesse. Et la promesse d'Abraham, c'était d'être le père de multitudes. Donc, de façon tout à fait logique, normale, Rebecca ne pouvait que... Rebecca se devait d'avoir plein d'enfants, puisque depuis Adam et Ève, pour assurer la multiplication de l'espèce, il fallait que Adam et Ève s'unissent, qu'un homme et une femme s'unissent. Donc, Rebecca étant la femme d'Isaac, et Isaac le porteur de la promesse, c'était une évidence. Et d'où vient-il encore qu'il lui fallut? Oh my God. Je veux insister ici sur le fait que la nécessité de prier vraiment avec ferveur pour tout ce que nous devons posséder. Parce qu'aujourd'hui, au temps de la grâce, comme on dit, notre Seigneur Jésus a tout payé à la croix. Et beaucoup disent, oh, il a déjà tout payé à la croix, donc tout est accompli, tout est fait. Ça n'est, je suis d'accord avec ça, mais ça n'exclut en rien le fait qu'il faut prendre cela à cœur et prier véritablement de façon fervente devant l'Éternel. Et même de combattre, je reviens sur la notion, bon, je ne vais pas dire combat spirituel parce que c'est encore un mot qui est confus dans l'esprit des gens et on mélange tout et ça fait confusion. Non, dans le désir de se lever vraiment et de s'impliquer dans la possession de ce qui t'est même promis, dans la jouissance des promesses qui nous est données. C'est important. Parce qu'il y a une nuance entre ce qui est libéré dans le spirituel et ce que tu possèdes ici. La parole de Dieu nous dit que par la foi, que la foi, c'est d'amener à l'existence ce qui n'existait pas. Pas que ça n'a pas été créé. C'est-à-dire, c'est le pouvoir de tirer du spirituel ce qui est établi pour l'amener en manifestation physique, en matérialisation véritable dans ta vie. Jésus-Christ, notre Seigneur, Saint-Sauveur, a tout payé et il a permis que tout cela, les promesses de Dieu, soient libérées dans le spirituel. Il nous revient à nous de rentrer avec violence et posséder ce qui est légitimement à nous, de posséder ce qui est libéré dans le spirituel et qui nous appartient par nos prières, mais par nos actions aussi, même par nos jeûnes, par notre foi, mais aussi par notre conquête en Jésus-Christ. Parce que l'ennemi est vicieux. Il est là, il tourne et à chaque fois, il essaye de retarder au maximum. Mes frères, mes sœurs, j'ose croire que ceux qui m'écoutent et tout sont dans la dimension du Fils, qu'ils ont compris véritablement qu'il fallait être violent de ce côté-là pour aller prendre et posséder. Pas la violence, comme nous connaissons aujourd'hui certains qui, entre guillemets, disent qu'ils sont dans la foi et ils utilisent des armes pour détruire leurs frères et tout. Non, non. Cette position spirituelle, dans la prière fervente, dans la déclaration, devant le tribunal, devant l'autel de Dieu, qui est un autel de justice. Il faut plaider devant Dieu. Alléluia. C'est pas pour rien que la parole de Dieu nous dit que Jésus allait se positionner comme avocat, notre avocat. Parce qu'en face, il y avait un avocat d'accusation. Il y avait là-bas un procureur de ténèbres là, qui accuse tout le temps. Alléluia. Et Dieu dit, venez plaider votre cause. En Jésus-Christ, nous nous blottissons. Ce mot désigne aussi le fait pour une femme de porter en son sein un enfant. Alléluia. Cela nous amène à quoi? Cela nous amène à définir encore une autre dimension de l'enceinte. L'utérus de la femme dans cet état-là est une enceinte, est un domaine, est un territoire, est un site, est un lieu pour la protection, la préservation et l'entretien de ce qui est enfermé dans son sein, c'est-à-dire de cet enfant, de ce fœtus, l'utérus de la femme. Et je vais aller par extension, la femme tout entière devient cette enceinte-là pour préserver. Je voudrais attirer votre attention sur la notion de la préservation de ce qui est à l'intérieur de l'enceinte. Quand Dieu définit une enceinte, c'est qu'il la préserve. Quand Dieu définit une enceinte, c'est qu'il veut faire une différence. entre ce qui est hors de l'enceinte et ce qui est dans l'enceinte. Et qu'il a un souci de préservation de ce qui est dans l'enceinte. C'est qu'il a un intérêt particulier dans ce qui est dans l'enceinte. Alléluia. Donc quand Dieu dit qu'il va faire toute votre enceinte, toute notre enceinte, toute mon enceinte de pierres précieuses, je suis intéressée de savoir de quelle nature sont les pierres précieuses. Je sais que le Seigneur veut attirer mon attention sur le fait que l'enceinte dont il me parle, j'ai le devoir de préserver, de protéger ce qui est dedans. J'ai le devoir de sécuriser ce qui est dedans. J'ai le devoir de privilégier ce qui est dedans. Et surtout, j'ai le devoir d'éviter à ce que ce qui est hors de l'enceinte contamine ce qui est dans l'enceinte. Parce que ici, ce verset qui a attiré mon attention, créé par le Saint-Esprit, qui m'a dit qu'il parle de sa Jérusalem céleste. La vision d'Ézéchiel montre le bâti de la Jérusalem céleste, c'est-à-dire les desseins de Dieu, son aspiration. Et il dit qu'il a bâti cette enceinte de cette façon-là, afin de séparer ce qui est saint de ce qui est profane. Oh my God! Parler d'enceinte revient à évoquer non seulement ce que tu possèdes, oui, parce qu'il dit ton enceinte, non seulement ce que tu possèdes. Car si tu as un territoire, un domaine, ce qui est sur le territoire t'appartient. Ce qui est sur le territoire est à toi. Donc, et la notion d'enceinte doit évoquer non seulement ce que nous possédons, mais aussi ce qui y est produit, ce qui y est contenu, ce qu'elle renferme et ce qu'elle renfermera, car tout cela t'appartient aussi. Dieu fait une vraie précision, une vraie phrase dans cette notion. J'ai envie, avant qu'on poursuive, que vraiment cette notion soit claire dans notre esprit. La notion de l'enceinte. Alléluia. Parce qu'il faut te dire que pour accomplir avec Dieu, tout ce qui est accompli avec Dieu est à Dieu. Si nous souhaitons accomplir avec Dieu, nous devons cesser. Je parle même des ministères, des églises et tout. Parce que c'est ça qui fait la faiblesse du corps du Christ aujourd'hui. Beaucoup rentrent dans le ministère, rentrent dans l'entrepreneuriat avec Dieu, même dans les affaires ou quoi, même dans la fondation d'une famille. Et se disent, dans le fond de leur esprit, ils veulent bâtir avec Dieu, mais ils se disent que c'est à eux. Non, ça t'appartient, oui. Mais regarde l'intérêt que l'Éternel a à cela. Parce qu'il a une finalité au-delà de toi, en ce qui concerne ce qui est contenu dans l'enceinte. Alléluia. Mais il ne veut pas faire sans toi. Parce qu'il te dit, c'est ton enceinte, je te l'ai donnée. Ça t'appartient, mais à moi et avec moi. Alléluia. Je vais prendre un exemple terre à terre. Parce que nous sommes, depuis que l'instruction s'est élargie, l'espace de ta tente. Et je disais déjà dans le message qui a traité ce verset-là en particulier, qu'il s'agit de bâtir. Nous sommes dans un processus de bâtir quelque chose. Nous sommes dans un processus d'accomplissement. Nous sommes dans un processus de construire quelque chose avec Dieu. Et si nous regardons de façon purement quotidienne, terrestre, sur la notion de terrain et de propriété. Nous, chaque personne qui vit sur la terre a un besoin en lui comme ça d'être propriétaire terrien, de quelque chose appartient. Nous avons vu dans l'histoire au travers les âges que lorsqu'il y a eu vraiment des vrais conflits entre le peuple et les dirigeants, c'était toujours lié à la possession de la terre. Que lorsque quelqu'un vient être dépossédé de sa terre et de ce qui est construit, il est vraiment dépossédé. Donc, lorsqu'on parle de, par exemple, de terrain, nous savons que légalement, le terrain, il y a une procédure pour pouvoir devenir propriétaire. Bien sûr, on rencontre quelqu'un qui vend un terrain et on paye un prix et on acquiert le terrain, d'accord. En espérant que c'était vraiment le terrain de celui-là qui cède. Donc, toi qui viens d'acheter le terrain, la loi te demande, tu dois marquer des choses. Un, tu dois faire borner le terrain. Il y a des services qui sont prêts pour ça, pour pouvoir vraiment mettre les bornes de délimitation. Donc ces bornes, cette phase de mettre les bornes sont importantes parce que ça crée une délimitation claire pour tous et c'est établi sur des tracés qui sont officiels. On borne le terrain. Une fois le terrain borné, tu peux maintenant, sur ces marques de bornage, tu peux bâtir une balustrade, tu peux bâtir une muraille, tu peux bâtir une clôture, tu peux bâtir un tout pouvoir matérialiser encore la délimitation de ce terrain. Ensuite, on te demande de pouvoir établir un acte légal qui, aux yeux des hommes et aux yeux de la loi, va en fait matérialiser ta propriété, que tu es propriétaire de ce terrain. Et on appelle le titre foncier. Ce qui est particulier que je voulais établir ici, c'est que ce terrain qui a été délimité, il peut être de toutes les natures. Ce qui est sûr, c'est que tout ce qui traverse ce terrain, tout ce qui est sur ce terrain, tout ce qui est posé sur ce terrain, tout ce qui grandit sur ce terrain, tout ce qui est du fond du terrain, même par-dessus, désormais t'appartient. Si tu as acheté ce terrain et qu'on t'a vendu le sol et que par-dessus il y avait une cabane, cette cabane est à toi, désormais. Une maison, cette maison est à toi, désormais. Il y a un cours d'eau, ce cours d'eau est à toi, désormais. Il y a des arbres fruitiers, ces arbres fruitiers, désormais, sont à toi. Dans le sous-sol, quel que soit ce qu'on y découvre comme richesse, ils sont à toi. Ce lopin t'appartient du centre de la terre jusque dans les cieux. C'est ta portion. C'est à toi. Qu'on y découvre du pétrole, c'est à toi. Des richesses minières, c'est à toi. Que ton sol soit dur ou rocailleux, c'est ton lot. Qu'il soit meuble cultivable, c'est ton lot. Alléluia. Que ce soit une forêt, c'est ton lot. C'est pareil. Quand Dieu nous dit qu'il va, oh my God, qu'il va faire de toute notre enceinte, des pierres précieuses. Qu'il va paver tout cela de pierres précieuses. Dieu dit que quand lui veut fonctionner avec quelqu'un, l'enceinte qu'elle lui donne à faire, c'est-à-dire le territoire, le domaine d'action dans lequel il envoie, le territoire sur lequel il établit, il fait une promesse et dit, ne regarde que tes yeux ne regardent pas ce qu'il voit là. Peu importe ce que tes yeux voient, peu importe la façon dont tu vois, ce qui est sûr, c'est que Dieu promet une chose, c'est que toute l'enceinte, il n'y aura pas un seul espace qui ne sera pas pavé de pierres précieuses. Tout sera pierre précieuse. Alléluia. Voilà la notion de l'enceinte. Merci Seigneur. D'abord parce que cette promesse nous amène à comprendre que tu nous établis sur des enceintes. Tu nous établis sur des territoires. Tu nous donnes des domaines, Seigneur, dans lesquels nous évoluons. Tu nous fais ces enceintes pour nous. Que nous possédons des enceintes. Alléluia. C'est déjà une grande richesse. Mais tu continues, Père. Et le verset nous dit, je ferai toute ton enceinte de pierres précieuses. Alléluia. Oh. Allons voir de quelles pierres précieuses l'Éternel parle et à quoi il nous appelle. Amen. Plusieurs des messages précédents nous ont déjà parlé de la notion de la préciosité. C'est ce que j'ai appelé la notion de préciosité devant le Père. Nous avons pu comprendre que la plupart du temps, l'Éternel fait des parallèles entre les pierres précieuses et sa nature. La nature divine de Dieu, la volonté de Dieu, la façon dont il veut que nous soyons, ou ce qu'il veut nous donner. Nous avons la notion de la pierre d'abord, qui sont un ensemble de besoins, de tâches, de missions, d'actes, d'actions à accomplir, des choses qu'il nous faut, des éléments qu'il nous faut pour pouvoir accomplir. Nous avons étudié ça lorsqu'il a dit qu'il garnira nos pierres d'antimoine. Nous avons compris, étudié et compris c'était quoi la pierre aux yeux de Dieu. Ensuite, il nous a dit à chaque fois qu'il allait faire des fondements de saphir, des fondements des créneaux de rubis, qui sont des pierres précieuses. Et l'étude de ces versets nous ont amené à comprendre la dimension de la préciosité d'une pierre. Donc, une pierre est une action, une tâche, hein, un élément dont on a besoin pour accomplir avec Dieu, quelque chose que l'on va faire avec Dieu. Mais Dieu la met dans la dimension de la préciosité. Et nous avons étudié cela et nous avons vu. Lorsqu'on prend pierre précieuse, nous sommes encore dans l'Ancien Testament, c'est le shéphet. Et ça veut dire délice, désir, le bon plaisir, ce en quoi on procure les délices, ce qui est agréable. Alléluia. Donc une pierre précieuse, et spirituellement parlant, représente un ou plusieurs des besoins que nous avons pour accomplir avec Dieu. Des actions que nous devons mener, des missions que nous devons accomplir, des tâches que nous devons faire, exercer, pour accomplir quelque chose, pour créer quelque chose, nous avons étudié ça. Ce sont des choses que nous recherchons, de ce que nous désirons voir. Et si elle doit être précieuse, nous avons aussi vu que non seulement ce sont des pierres, des actions, des tâches, des missions qui nous tiennent à cœur, qui font comme ça le désir, nos désirs dans le cœur, mais surtout qui correspondent et qui sont en phase avec le plaisir de Père. Nous l'avons étudié ça. Lorsque nous étudions les fondements de Saphir, Dieu nous a parlé de sa notion de préciosité. Donc une pierre précieuse est une mission, est une tâche, est un engagement, est un service, est une action, est une activité, oui, qui fait l'objet de nos désirs, mais qui en priorité doit faire l'objet des plaisirs de Père. C'est-à-dire, ça doit être aux yeux de Père un délice. Ça doit être quelque chose qui lui est agréable. Et même l'agréabilité de Père dans ça doit être au-dessus du plaisir qu'il y a en nous. Ça va tellement loin que ça s'inverse. Parce que de façon naturelle, les choses que nous désirons, parce qu'elles sont un peu dominées par notre chair, sont rarement dans l'agréabilité de Père. Mais l'Éternel Dieu nous dit ceci. Quand tu veux vraiment marcher avec moi, c'est moi qui fais ces choses en toi. C'est moi qui fais ton enceinte de pierre précieuse. C'est-à-dire que ma promesse, c'est que si tu désires vraiment marcher avec moi et que tu élargis l'espace de ta tente comme je te l'ai instruit, comme je te l'ai recommandé et sur lequel je t'ai instruite, c'est moi qui mettrai dans ton enceinte des pierres précieuses. C'est-à-dire que c'est moi qui ferai venir en toi les désirs qui me correspondent, qui me sied, qui me sont agréables. Afin que nous soyons en phase, afin que nous puissions accomplir véritablement. Le verset qui parle le mieux de ça, qui exprime le mieux cela, parce que David l'avait compris. David est l'homme selon le cœur de Dieu. David l'avait vraiment compris. Et il disait déjà en ce temps, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est ce verset qui traduit la notion de préciosité de Père. Et c'est ce qu'il nous promet dans ce verset. Je ferai ton enceinte, toute ton enceinte de pierres précieuses. Quand tu feras de moi tes délices, je mettrai en toi des désirs qui me conviennent. Des désirs qui non seulement conviennent au plan que j'ai pour toi, mais je vais m'assurer encore et je vais faire en sorte que cela comble tes désirs. Oh my God! Quand ça vient de Dieu, y a-t-il un doute à avoir là-dessus? Amen. Chaque pierre précieuse dont l'Éternel promet de remplir, de paver ton enceinte est rattachée à une nature particulière de Dieu, à une étape de marche avec Dieu. Ça constitue un acte, une tâche, une mission, une commission, un service, un ministère, un accomplissement pour les desseins de Père. Mais la particularité des pierres précieuses, c'est qu'en accomplissant cela, au sein de ces pierres précieuses, il y a tout ce que ton cœur désire. Tu retrouves tout ce que ton cœur désire. Alléluia. Et c'est vraiment cette communion et ce partage. Et donc c'est tellement ce qui est contenu dans l'enceinte est tellement précieux et pour toi et pour Père. Parce que ça correspond à vos deux désirs. C'est précieux. Et l'Éternel te dit, préserve-moi cela. Préserve cette enceinte. Parce que ce que j'y mets est important pour toi et pour moi. Alléluia. Oh Père, je veux vraiment être une enceinte pour tes pierres précieuses. Saint-Esprit de Dieu, entends. Et conduis-moi dans l'exaucement de cela. Au nom de Jésus. C'est tellement précieux que la seule comparaison humaine que Dieu a faite dans sa parole, c'est à notre Seigneur Jésus-Christ. Le seul qui a été comparé à une pierre précieuse. Apocalypse 21, 11 nous dit, « Ayant la gloire de Dieu, son état était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme le cristal. » C'est encore une nature. Nous avons vu quand nous étudions les fondements la notion de transparence, sans fourberie, sans hypocrisie, en vérité devant Dieu, qui fait traverser, passer la lumière, qui fait la lumière de Dieu. Nous avons étudié ça. 1 Pierre 2 nous dit, « Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire. » Cette pierre angulaire n'est pas seulement angulaire, mais elle est choisie. C'est la notion de l'élection. Elle est précieuse. Alléluia. Et elle a une particularité. C'est que celui qui croit en elle ne sera point confus. Amen. Dieu dit qu'il va déposer dans notre enceinte des pierres précieuses. Quand une pierre est précieuse aux yeux de Père, c'est qu'il n'y a plus de confusion. Alléluia. Pierre nous dit encore, au verset 4, « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. » En parlant toujours de notre Seigneur Jésus. Oui, Dieu veut marcher avec nous et accomplir avec nous comme il a accompli avec Christ. C'est pour ça que Christ prend la peine de nous dire « Imitez-moi ». Il a donné sa vie afin que nous soyons dépouillés de tout ce qui pouvait nous empêcher d'être à son image, d'être comme lui. Parce que c'est dans cet état que Dieu veut marcher avec nous. Et lui-même, Dieu prend ses dispositions pour pouvoir nous permettre d'être rendus capables de marcher avec lui dans cet état-là. Alléluia. Oh my God. Tout le long des versets que nous avons précédemment étudiés,